France Inter. Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. La seconde journée aujourd'hui dans le département de la Creuse avec en ouverture un beau sujet de débat. Peut-être que Bruno en traitera prochainement dans son 13-14. C'est l'usage du cannabis thérapeutique malgré la mise en place d'une expérimentation votée en décembre dernier, en décembre 2019. Des médecins et des associations attendent toujours la publication de ce décret. Joanny Chatou, agriculteur, lui n'a pas attendu pour se lancer dans la production de cannabis. Il est notre premier invité. Et puis rencontre ensuite avec Amandine Bonneau, facilitatrice à l'installation de nouveaux habitants dans le sud creusois.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Joanny Chatou, bonjour.
Bonjour.
Joanny, vous allez m'aider parce que vous dites cannabiculteur, mais c'est différent du chanvrier.
La différence, c'est que le chanvrier il va utiliser essentiellement la tige et la graine.
Oui.
Et le cannabiculteur, il va utiliser plutôt le chanvre pour la partie florale, qui contient des cannabinoïdes, des terpènes et des flavonoïdes.
Oui. Alors, vous êtes agriculteur et donc cannabiculteur à Gensioux, Pigerolles. Votre ferme s'appelle la ferme bio de Pigerolles. Et votre idée de produire un cannabis thérapeutique, je signale bien, thérapeutique évidemment, depuis 3 ans, est liée au contexte économique de la Creuse?
Alors, tout ça c'est parti du plan particulier pour la Creuse où le président de la République a donné l'opportunité aux politiques creusois de proposer des mesures qui pouvaient sortir du cadre habituel. Et donc Éric Correa, qui est conseiller régional et président d'Aglo du Grand Guéret, qui a émis l'hypothèse de monter une filière de cannabis thérapeutique en Creuse, qui pourrait ouvrir droit à une dérogation pour pouvoir produire du cannabis pour les malades.
Oui. Cette proposition du chef de l'État est venue à la suite de ce qui s'est passé dans l'usine de l'équipementier automobile de la souterraine, on en a beaucoup parlé, GMES, avec beaucoup de personnes qui sont retrouvées sur le carreau. Pourquoi le cannabis thérapeutique chez vous alors que le chanvre peut avoir une autre utilité et une autre exploitation?
En fait, Monsieur Correa est infirmier anesthésiste, donc en fait, il a déjà été confronté à des malades qui prennent du cannabis dit thérapeutique, mais en toute illégalité pour se soulager, et que la Creuse est historiquement une terre de production de chanvre, d'où l'idée de filière qui pouvait recréer beaucoup d'emplois et de l'attractivité pour ce département, et une image un peu plus jeune. Enfin, on a tout à gagner, les malades ont à gagner, et les agriculteurs ont à gagner qu'il y ait en France une filière de cannabis thérapeutique.
Ouais. Vous êtes nombreux à tenir cette exploitation, cette production de cannabis?
Alors nous, sur la ferme, on est 4 associés, on a 2 salariés, et à terme, si demain on a toutes les autorisations pour produire alors, à la fois du cannabis bien-être et du cannabis thérapeutique, sur la ferme, on pourrait facilement créer 10 d'emplois. Et sur l'aspect filière cannabis thérapeutique creusoise, on est sur un projet là, de pôle d'excellence dans un ancien site militaire où, à court terme, si on nous donne les autorisations, on pourrait créer 100 emplois.
C'est la situation, alors l'effet économique est important, mais Joanny, la situation aujourd'hui, c'est que la production n'est toujours pas autorisée. Alors vous, vous vous retrouvez dans l'illégalité?
Alors, c'est là qu'est en fait la problématique, c'est qu'en France, on a 2 trains de retard. Dans tous les autres pays, avec le Covid, ça a eu l'effet inverse. Les autres pays ont accéléré la transition et sont allés vers la légalisation du cannabis thérapeutique et même parfois récréatif. Et nous, en France, en fait, l'expérimentation sur les malades aurait dû attaquer au mois de septembre et elle a été repoussée au mois de janvier. Et maintenant, on parle peut-être même d'un déport de la date de l'expérimentation. Et effectivement, il y a un gros problème politique. Dans ce pays, je crois que les politiques ne sont plus en capacité de prendre des décisions et attendent sur les fonctionnaires pour y mettre en place. Mais les fonctionnaires attendent que les politiques prennent des décisions fortes, donc il ne se passe rien. Et on espère qu'il y a un fort lobbying des malades, des médecins, pour que ça s'accélère et qu'enfin, il y ait une vraie décision qui soit prise dans ce pays sur le cannabis thérapeutique.
Alors, il y a des signataires nombreux au profit de la légalisation, de la production et la commercialisation de ce cannabis thérapeutique. Et je vois, ce sont des professeurs d'université, des chercheurs, des médecins oncologues, des neurologues. Il y a évidemment des personnalités connues comme Axel Kahn, Gérard Raymond, président de France Asso Santé. Le débat est ouvert depuis 2 ans au sein de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ça a été aussi avancé par le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. Finalement, on n'est pas loin du gain de cause aujourd'hui.
Alors, on n'est pas loin du gain de cause, mais la France reste la France. Et s'il n'y a pas, par exemple, M. Macron, le président, qui prend une décision forte en disant que maintenant ça suffit et on embraye, ça peut prendre encore des mois, voire des années, avant qu'il se passe quelque chose. Je prends l'exemple d'Israël où M. Netanyahou a donné 4 mois à ses administrations pour mettre en place les changements de loi pour légiférer sur le cannabis thérapeutique et récréatif. Il leur demande pas leur avis. Il leur dit, vous avez 4 mois pour mettre en place des nouvelles législations. Et c'est ce qu'il faut en France. Il faut un pouvoir, une décision politique forte pour que les administrations mettent en place cette politique.
Alors, et qui pouvez-vous vendre cette production aujourd'hui?
Actuellement, on est coincé. Si on nous donne pas l'autorisation à des opérateurs en France de produire, et ben, ça sera des opérateurs étrangers qui vont venir envahir le marché français. Et nous, on a vraiment, on attend qu'on ait une production française de qualité, avec la traçabilité. On a les compétences pour le faire. Il nous faut juste le feu vert.
Voilà.
Et on a bien vu avec le Covid que les frontières peuvent se fermer rapidement. Si le cannabis thérapeutique n'est pas produit en France et que les malades ont commencé à en prendre, il faut assurer la continuité des soins et se fournir à l'étranger. Il y a quelque part une part de danger, quoi.
Absolument. Et puis je rappelle donc ce que vous disiez tout à l'heure, Joanie, il y a un enjeu économique évident. Je vous laisse aussi vous promener sur les réseaux sociaux. Il y a une page Facebook de la ferme bio de Pigerol. Alors vous tapez la ferme bio de Pigerol et vous arrivez sur la page, vous avez toutes les informations. Merci Joanie pour votre témoignage et votre travail.
Eh bien, écoutez, c'est moi.
France Inter, carnet de campagne.
Nous avons reçu un courrier peu commun. Il provient de l'association Renaissance et Patrimoine de Valréas. Vous avez compris, on change de département, on se retrouve dans le Vaucluse. Cette association qui valorise, promeut et restaure le patrimoine local s'attache à redonner vie en ce moment à un moulin construit en 1646. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais ce moulin de pied Vaurias sur la colline du même nom devrait normalement permettre, une fois les travaux terminés, de produire de la farine réalisée à la meule de pierre. Donc l'appel original de l'association est le suivant. Elle recherche d'ores et déjà un meunier ou un paysan meunier qui serait prêt à participer à cette aventure, une aventure de longue haleine, hein, car il est impératif de boucler le budget nécessaire à l'organisation du chantier de restauration. Les dons sont donc attendus, évidemment, tout comme le meunier de cette future économie locale. Allez voir le site, c'est patrimoinevalreas.org. Et pour les candidatures, vous pouvez adresser un courrier à patrimvalreas@gmail.com. patrimvalreas@gmail.com. Amandine Bonneau, bonjour.
Bonjour Philippe.
Et quel beau métier, facilitatrice d'installation.
Oui, tout à fait, effectivement. Donc depuis 2019, suite à l'appel à candidature accueilli en Massif Central, porté par le GIP Massif Central, qui gère des fonds européens, on a pu réactiver sur la communauté de communes Creuse-Grand Sud une politique d'accueil volontariste pour l'installation de nouveaux arrivants. Donc c'est très important pour nous.
Et dans cette communauté de communes Creuse Grand Sud, il y a péril en la demeure au niveau démographique?
Oui, donc en fait, cet appel à candidature, il fait suite à un constat démographique de baisse de la population liée au solde naturel qui est négatif, mais qui est compensé là faiblement par un solde migratoire. Donc on accueille des populations sur le territoire, ce n'est pas nouveau, mais il convient de l'accompagner pour que ces installations deviennent pérennes, parce que oui, il y a un enjeu, nous, pour le territoire, de maintien d'une économie locale, de services, et voilà, donc on essaie d'améliorer les facteurs d'attractivité pour inverser la tendance démographique du territoire.
Alors, on parle actuellement, mais depuis quelques années, mais a fortiori davantage avec la crise sanitaire, d'exode urbain. Est-ce que vous avez vu effectivement des modifications, une arrivée d'habitants extérieurs provenant des villes et grandes agglomérations?
Oui, tout à fait. On a beaucoup de demandes effectivement de citadins qui veulent venir s'installer ici. On a la chance d'avoir de grands espaces, d'être en lien avec une nature préservée. Et donc, on a des citadins, effectivement, qui ont envie de se mettre au vert. Et donc, on a de la demande de ce profil-là, effectivement.
Alors, Amandine, de l'espace pour s'installer, il n'y a pas de souci. Mais que peut-on faire dans cette communauté de communes Creuse Grand Sud?
Alors, effectivement, nous avons de l'espace, mais nous avons aussi des emplois à pourvoir qui sont non pourvus. Nous avons là un champ des possibles pour les créateurs d'activités. donc dans le tourisme, des emplois aussi administratifs qui sont pas forcément pourvus. Et effectivement, on a des personnes qui souhaitent s'installer ici, qui ont des reconversions professionnelles en tête. Voilà, donc quand moi je les accueille, c'est d'avoir une écoute attentive à leurs projets et de voir si c'est possible en mettant ces personnes en lien avec tous les acteurs potentiels qui pourraient permettre leur installation sur le territoire, donc que ce soit avec les chambres consulaires. On a des offres de reprise de bars, restaurants. Là, actuellement, on en a un à Saint-Marc-à-Loubeau, sur le plateau de Millevaches, près du lac de la Vaugelade. Voilà, on a des offres d'installation, de reprise transmission. J'essaie d'avoir aussi un répertoire, une base de données en lien avec les maires, les secrétaires de mairie, pour justement avoir une offre complète pouvoir annoncer auprès de ces futurs potentiels nouveaux arrivants.
Oui, parce que c'est vrai que votre champ d'activité est très vaste. Vous faites un boulot énorme. Le cadre de vie, l'emploi, la création d'entreprises, le logement, l'école. Qu'est-ce qui peut freiner une installation dans ce département? Parce qu'on parle des côtés positifs, mais qu'est-ce qui est encore négatif dans cette panoplie de possibles?
Alors là, on a des nouveaux élus, un nouveau conseil communautaire, et donc on va travailler en commission sur effectivement les points à améliorer. On se rend compte que l'offre locative peut être un frein à l'installation. Effectivement, nous avons des projets économiques, des projets d'activité, des projets de vie, mais quand on ne trouve pas un logement pour s'installer ici, ça peut être un parcours du combattant pour des potentiels habitants de s'installer. Donc on va essayer de travailler là avec les nouveaux élus, justement, à essayer d'inverser un peu ce point qui peut être négatif. On commence à répertorier les logements vacants. Nous avons des maisons avec des volets fermés. Comment réfléchir ensemble à essayer d'inverser ça. Donc on va dire le logement peut être un frein, et donc on travaille là-dessus. La mobilité aussi ici, faut bien se rendre compte que la mobilité, on n'a pas de transport en commun, vraiment un réseau développé, donc la voiture, il faut avoir le permis, donc on essaie aussi de mobiliser tout un système de covoiturage, d'entraide. Les habitants se mobilisent beaucoup sur le territoire. On a vraiment la chance, nous, d'avoir de multiples associations dans le champ social ou culturel, beaucoup d'initiatives citoyennes. Et tous ces acteurs qui sont aussi bien associatifs que publics, essayer de les mobiliser pour essayer de lever les freins.
Le site, c'est creuse-grand-sud.fr. Si vous voulez découvrir ce territoire du côté d'Aubusson et du plateau de Gensioux avec Amandine Bonneau. Merci Amandine.
Merci Philippe, bonne journée.
Plusieurs courriers qui nous sont parvenus mentionnent une association née en 2010 en Creuse, Carduelis. Son but, c'est étudier les espaces naturels de la région, de France, même d'autres pays étrangers et francophones. Ses supports de communication sont doubles. L'édition d'une revue baptisée La Cardère, dédiée à la nature en Limousin, et la production de films documentaires à géographie très variable. Le premier documentaire réalisé en 2011 portait sur une réserve naturelle au sud du Burkina Faso. En 2012, un film sur la curée des fauves, qui porte sur les populations de vautours des Pyrénées-Atlantiques. En 2015, un travail aussi documentaire d'un 52 minutes en Guyane française. Et un quatrième sur les territoires du Lynx en Andalousie. Aujourd'hui, l'association poursuit d'autres projets de réalisation de documentaires. Et pour la belle histoire, Carduelis est né de la rencontre de deux photographes baroudeurs passionnés de nature, établis maintenant en Creuse, Carmen Munoz, qui nous a écrit. Bonjour Carmen, et Vincent Primo. Pour information aussi, Carduelis est le nom savant donné aux oiseaux, chardonnerets. Vous allez trouver un lien avec le site de l'association Carduelis. Demain, nous allons nous intéresser à un service assez particulier. C'est une plateforme qui s'appelle Polypart, qui permettrait de rétablir la confiance entre les citoyens et les élus. Je vous en dis pas plus, vous allez découvrir ça demain. Et puis je rappelle, nous prenons toujours des informations en provenance du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Aisne. Merci Nicolas Stoufflet, le jeu des 1000 euros dans la Creuse, deuxième journée à Boussac.